Nous sommes entourés dans cette salle des 200 volumes qui constituent la collection du journal d'illustration, hebdomadaire bien connu, qui nous a accompagnés de 1840 à 1944. Ils courent au niveau du sol, tout en vogue, font le tour, et sont le témoignage de notre histoire au jour le jour sur plus d'un siècle. Alors ce soir, je vous propose d'ouvrir les deux volumes de l'année 1894. On a regardé les événements, petits et grands, qui marquèrent nos pères qui ont vécu à cette période. Comme il n'est pas question d'ouvrir l'illustration sans regarder justement les illustrations, on a essayé de composer une espèce de journal télévisé de l'époque et qui sera constitué pour une fois uniquement par des membres de la bibliothèque. Nous sommes donc en 1894 et voici, on va dire, les titres de l'actualité. Jean Bonamy est transformé spécialiste de l'armée et de la politique. Zaza Bekada qui nous parlera des lettres. Jean-Louis Bertrandi qui nous parlera lui de sciences et techniques. Michel Blou nous amènera faire du sport et nous entraînera vers des loisirs et des voyages. Pierre Thuillier, Vidal et Marie Von Trion, qui n'est pas là, mais qui s'associe sans aucun doute à nous, et qui a beaucoup travaillé avec Pierre, nous présentera la mode cette année et la page spectacle. Et enfin, Denis Cloutier nous présentera un événement bien parisien, qui est le salon de 1894, qui est une grande place à l'époque. Nous allons donc démarrer avec notre spécialiste, Jean Bonamy, qui va nous parler de l'accident de l'Arethuse.
Une terrible catastrophe s'est produite le jeudi 25 octobre à bord du croiseur l'Arethuse en ce moment en armement à Brest. L'Arethuse, que représente le dessin, est un vieux croiseur en bois lancé à Toulon en 1882 pour être affecté aux stations lointaines et qui n'a pas une bien grande valeur militaire. Il avait reçu, il y a 3 semaines, l'ordre d'entrer en armement pour renforcer la division navale de l'océan Indien. On procédait à des essais de machines au point fixe et une quarantaine de mécaniciens et de chauffeurs étaient réunis dans la chaufferie lorsque vers 10h30, on entendit une violente détonation en même temps que la vapeur envahissait la chambre des machines, brûlant plus ou moins grièvement la plupart des malheureux qui s'y trouvaient enfermés. Quelques hommes purent se sauver par une coursive qui mène au panneau d'avant et monter sur le pont, mais d'autres, trop nombreux hélas, restaient dans la fournaise. L'organisation des secours ne put avoir lieu immédiatement à cause de la vapeur qu'il fallait condenser au moyen de pompes, et ce ne fut qu'au bout de 35 minutes que l'on put procéder au sauvetage. Au total, cette épouvantable explosion a coûté la vie à 6 personnes. 3 mécaniciens, 3 chauffeurs et 6 autres ont reçu des blessures graves. L'enquête sur les causes de cet accident a commencé immédiatement. Mais comme toujours, elle a lieu dans le plus grand secret. Et l'administration se gardera bien d'en faire connaître le résultat. Ne vaudrait-il pas mieux, au contraire, lui donner la plus grande publicité possible, ne fût-ce que pour démontrer ce dont nous ne doutons pas, que de tels malheurs échappent parfois à toute prévision. N'y aurait-il pas là, d'ailleurs, une sorte de leçon de choses dont pourraient profiter ingénieurs et constructeurs et qui permettraient peut-être d'éviter le retour de semblables catastrophes.
J'ai entendu parler d'un procès qui est, je crois, le début de l'affaire Dreyfus.
Elle va finir et finir dans les derniers scandales l'année 1894. Elle va finir sur ces affaires de chantage et sur le rejet d'un officier français du sein de cette armée loyale dont il pouvait être l'honneur. Nous n'avons jamais assisté à de tels spectacles, éprouvé une telle tristesse. Bazaine n'était pas Dreyfus. N'en parlons plus, disait l'autre jour M. Saint-Geneste, en les invitant à jeter un voile sur cette infamie. Et l'on en parle moins, en effet. Mais comment empêcher l'imagination publique de chercher, en sa curiosité, à deviner les motifs du crime? Quel romancier inventera la cause de la tentation première? Comment et par quelle succession de chutes devient-on Judas et rend-on le Christ ou la patrie. Autant d'interrogations auxquelles personne ne peut répondre. J'aurais donné mon droit d'aînesse pour avoir la faculté de me rendre invisible et assister aux dramatiques séances du Conseil de guerre la semaine passée. Si le capitaine Dreyfus, l'homme qui fut le capitaine Dreyfus, a trahi par on ne sait quel sentiment de dilettantisme affreux, et s'il a, pendant un certain temps, éprouvé des sensations particulièrement raffinées en serrant la main de camarades qu'il envoyait tout doucettement à la mort, il a dû ressentir aussi de petites émotions et inattendues lorsque les témoins ont défilé devant lui en lui jetant sa trahison au visage. Voilà un roman psychologique dont la banalité n'est pas courante. On fera quelques jours des drames avec l'histoire de ce Dreyfus. Et l'ex-officier n'y jouera pas un corbeau rôle. Quelle chute et quelle amère tristesse pour nous tous. Mais du moins, ce qui reste de cet exécrable procès, ce qui reste, c'est le cri de ralliement et d'espoir de cet inconnu, interrompant la sentence due par le colonel Morel, pour résumer à lui seul le sentiment de tous, l'espoir de la France après tant d'angoisse. Oui, vive la patrie! Oui, vive la patrie, et ce n'est pas un traître qui peut l'empêcher de vivre.
On va embrayer directement sur l'armée, un peu plus légèrement, par une petite bande dessinée. Oui, il y en avait déjà, une bande dessinée, qui nous est proposée par notre ami Carandache, et qui traite d'un difficile problème, qui est le problème du salut militaire. Vous saluez comme ceci en regardant la personne. Numéro 2, autant. C'est mauvais, recommencez. Cela ne vaut rien, autant. La main est trop haute. Tournez la tête vers la personne que vous saluez. Tournez la tête. Mon ami, regardez donc la personne. Mais regardez donc la personne. Quelle personne? Vous êtes là d'une beauté. On continue avec la semaine comique. Alors chaque semaine dans l'illustration vous trouverez une petite image qui décrit l'actualité. À l'époque le grand sujet, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, c'était les anarchistes, et il y avait beaucoup d'images sur les anarchistes. Moi je n'ai pas peur des anarchistes, je crois bien mon brave. D'abord vous risquez moitié moins que nous. Il nous faut prendre des précautions, c'est abominable. Et nous vivons réellement dans une bonbonnière, chère madame, dans une bonbonnière. Alors pour ceux qui sont au fond, bonbonnière, c'est écrit B-O-M. Eh bien, on va directement ouvrir sur les anarchies avec une actualité grave que nous présente Zaza et la mort de notre cher président de la République, Sadi Carnot, assassiné
le 24 juin 1894. Dans l'admirable spectacle des funérailles faites à M. Carnot par ce grand Paris et l'on peut dire par la France, chacun a éprouvé une émotion personnelle, des sensations particulières. Je voudrais noter les miennes qui sont celles d'un témoin, d'un passant, d'un de ces millions d'inconnus dont la foule était faite dimanche. Un spectacle? Oui, c'était un spectacle. Et aussi une leçon. L'apothéose d'un honnête homme, la glorification d'une victime du devoir. J'ai bien regardé cette foule, ouvriers, petits bourgeois, pauvres gens faisant la haie devant le char funèbre. Tous avaient la tête nue, roulant entre les doigts leurs casquettes ou leurs chapeaux de feutre mou. Caserio ne sait pas, le misérable fou, tout ce qu'il a éveillé de pitié pour sa victime. Chez les humbles, les petits, les pauvres diables, qui ont un cœur, et je dirais un grand cœur. Ceux-là, dans le défilé de dimanche, ne voyaient pas seulement une scène de théâtre, un beau décor. Il sentait tout ce qu'il y avait de bravoure résolue dans l'attitude du nouveau président de la République, suivant à pied le cercueil, et ce qu'il y avait de douleur, d'imméritée souffrance chez ces très jeunes gens groupés auprès du char funèbre qui emportait leur père. Peintre, j'aurais pris en chemin plus d'un croquis sur mon carnet. Ce qui était charmant surtout, inattendu, c'était au-dessus du grand portail drapé de deuil de Notre-Dame, des sœurs de charité parmi les saints de pierre de la galerie ajourée qui domine le portail. Le gris des statues séculaires se mêlait au gris de fer des robes des sœurs dont les cornettes, grandes ailes éclataient là-haut en blancheur. et ces jeunes femmes accrochées aux sculptures ou à demi dissimulées derrière les statues gothiques donnaient une singulière expression de vie à ces figures de pierre immobiles depuis des siècles. Et je regardais le char funèbre où, sous le drapeau tricolore, dans sa bière de velours, était étendu Monsieur Farnoux, raidi, d'une raideur immortelle et qui ne fera plus sourire.
Alors, Monsieur Farnoux a été assassiné, on l'a retrouvé l'arme du crime.
Oui.
Un poignard.
Depuis le 24 juin, et ce maudit poignard, il est enfin terminé ce procès qui marquera dans les annales judiciaires et dont la sanction prévue n'est sans doute plus qu'une question de jours. Il aura mis en lumière une physionomie de criminel digne, malgré l'horreur qu'inspire son acte abominable, d'attirer et de retenir l'attention. Voyez d'un côté Caserio, assis entre deux gendarmes derrière Maître Dubreuil, son défenseur, sa forte main appuyée sur la barre, le regard fixe et perçant. Voyez-le de l'autre côté, la tête inclinée à droite, essayant d'un mouvement nerveux avec son mouchoir, tenu à pleine main, ses yeux mouillés de larmes. Rien ne pourrait mieux que ces deux attitudes contradictoires expliquer l'état d'âme complexe de l'assassin du président Carnot, tel que les débats devant la cour d'assises du Rhône l'ont fait, à notre sens, apparaître. Quand la sentence de mort fut prononcée, ce fut d'une voix quasi étranglée qu'il cria « Vive la révolution sociale !» C'est comme par acquis de conscience que, se retournant à demi, avant d'être reconduit dans sa prison, les menottes aux mains, par les gendarmes, il ajouta « Courage, camarade, vive l'anarchie !»
Pour tout, on continue avec encore une mort.
Ouais.
Ah ouais, c'est une C'est la mort d'Alexandre III.
Oui. Depuis l'aggravation du mal implacable auquel le tsar devait succomber, la population a attendu chaque jour avec anxiété les nouvelles de Livadia. Dans la matinée du jeudi 1er novembre, des bruits alarmants commencent à circuler. Le dernier bulletin arrivé, dont on s'arrache les exemplaires, ne laisse plus qu'un bien faible espoir. Aussi, une morne tristesse est-elle peinte sur tous les visages. Toute la journée, les passants se prosternent et se signent, implorant comme un miracle la guérison de leur empereur. La nuit tombe, enveloppant la ville d'un voile de deuil. Enfin, vers 7 heures, apparaissent les agents chargés de distribuer le bulletin publié par le messager officiel. C'est la dépêche annonçant la mort du tsar, parvenue à 6h30 au ministère de l'Intérieur. Voici la traduction de ce document. Sa Majesté l'Empereur Alexandre III, à 2h15 de l'après-midi, ce 20 octobre, est parti doucement vers Dieu.
Une actualité plus gaie ?
Non. Guerre. Un incendie a détruit samedi dernier le magasin de l'Opéra. Les causes du sinistre ne sont pas encore bien connues. Toutefois, l'enquête minutieuse poursuivie par M. Mouquin, commissaire de police, semble établir que le feu a pris au deuxième étage, dans un local peu fréquenté, appelé magasin des petits décors.
Bon, alors là, c'est vraiment une dernière nouvelle, pendant qu'on y est, pour qu'on finit dans les catastrophes, et on ne s'en sortira pas avec l'anarchie. On vient d'apprendre l'explosion dans un restaurant, le restaurant Foyot, vous connaissez tous. Un mois à peine s'est écoulé depuis l'attentat commis à la Madeleine, et voilà qu'un nouveau crime anarchique vient de jeter les mois dans le paisible quartier du Luxembourg. Tous les Parisiens connaissent le restaurant Foyot, qui fait l'angle de la rue Tournon, Vaugirard et Condé. Mercredi soir, à 8h35, une violente détonation, suivie d'une grêle d'éclats de verre, s'est fait entendre, semblable à un coup de canon. Et on l'a entendu de Grenelle, Auterne et jusqu'à Asnières. Nous avons été parmi les premiers sur les lieux et avons pu faire des croquis d'après nature. Le poète conférencier bien connu, Laurent Taillade, qui avait récemment qualifié de beau l'exploit de Vaillant lors de son attentat, a été le plus gravement blessé. Peut-être aujourd'hui regrette-t-il sa phrase malheureuse. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées. Un peu d'utilité. Savez-vous que les vaccins ont été inventés? Et je vais vous présenter une vaccin party, celle qu'on pouvait les pratiquer dans les soirées franchies de mon genre, vous n'avez pas. Reçu une invitation de monsieur et madame la comtesse de Lavonnette, vaccin parti à 9h, soirée d'hygiène, que Dieu vous gémisse. Fidèle au rendez-vous à 9h, mais vous n'avez pas la tenue de rigueur, bras nus. Depuis combien de temps n'avez-vous été vacciné? depuis 35 ans. Importuné. Je me mets en tenue, les invités à pied. Quelques-uns ont pris des déguisements. Les hommes en sénateurs romains, les dames en sœurs de l'empereur, tenues favorables à la vaccine. À 10 heures précises, le domestique annonce la lavache. Le docteur qui l'amène fait vérifier, et le domestique annonce de nouveau, ce n'est pas une vache, c'est du jet. Entrée triomphale du vaccinateur qui fait le tour des salons sur sa génisse. La comtesse donne des numéros d'ordre, chacun passe à son tour et reçoit la précieuse inoculation. Puis on passe au fumoir, transformé en séchoir. On prend des pauses de serment du jeu de paume pendant 5 minutes. Après 132 vaccinations, la génisse irritée a renversé le plateau de sorbet. C'est le seul accident de la soirée. Pas de musique, pas de poker, pas de monologue. Une soirée vraiment charmante. Dommage qu'il soit interdit de se faire vacciner chaque soir. Bon, vous savez qu'on a beaucoup de publicité actuellement, mais à l'époque, la publicité, ça marchait déjà très bien. Et alors, une obsession, je n'ai pas compris pourquoi, c'était l'obsession des corps aux pieds. Donc, chaque semaine, dans l'illustration, il y avait un magnifique article consacré aux corps aux pieds, qui était très beau. Et alors, il y avait un petit poème qui allait... Donc voilà, alors là, je vais vous lire, par exemple. « Mignonne, qui mettait sur vos pieds que j'adore ces anneaux de basse-mute aux effets souverains, ne sont-ils pas pourvus plus précieux encore que les anneaux de prix que vous avez au moins ? Pour recevoir franco des anneaux de Weissmut, adressez un franc à poste à monsieur Petit Guillonin, pharmacie commerciale, 27 rue Drouot, Paris. » Alors il y avait un truc intéressant aussi, c'était les maux de dents. Quand on avait mal au pied, on avait les maux de dents. Plus de maux de dents, par l'emploi des dentifrices, élixir pur et pas, des révérendaires bénédictins de l'abbaye de Soulac. Vous avez encore le masque d'Hermophile de madame Rollet, qui fait disparaître promptement toute imperfection du teint. Et sur ça, nous continuons dans la vaccination avec notre spécialiste des sciences et des techniques, Jean-Louis Bertrandi, qui va justement nous parler, mais plus sérieusement cette fois, du vaccin de la diphtérie.
La diphtérie est vaincue. Les mères de famille du monde civilisé tout entier ont tressailli de joie à la nouvelle venue de France qu'un mal terrible, impitoyable, dont le nom seul répond à la terreur, venait enfin d'être dompté. Les travaux effectués à l'Institut Pasteur par messieurs Roux et Martin ont conduit à la découverte des vertus curatives et préventives du sérum du sang d'un animal auquel on avait administré la toxine de la diphtérie. Le sérum de cet animal réduit à l'impuissance le terrible microbe de la diphtérie. La voie est ainsi ouverte à la sérothérapie et puisse avoir disparu avant que sonnent les premières heures du XXe siècle les maladies amicrobiennes qui déciment l'humanité, la phtisie, la typhoïde, le choléra, la peste également, dont M. Yersin vient de découvrir le microbe à Hong Kong pendant la terrible épidémie qui endeuille la région de Canton.
Nous revenons à Paris. Et je crois que vous avez fait une visite sur une construction assez admirable qui est l'hôtel central des téléphones.
C'est l'hôtel central des téléphones, exactement. C'est ce bâtiment neuf qui va de la rue du Louvre à la rue Jean-Jacques Rousseau et qui abrite la nouvelle installation du téléphone. Dans les installations précédentes, une téléphoniste répondait aux appels de 25 abonnés. La nouvelle installation va permettre à notre téléphoniste, qui maintenant est chargé de 80 abonnés, de les mettre directement en rapport avec 5000 autres abonnés. On voit bien le gain de temps dans l'établissement des communications et l'amélioration de la qualité du service qui en résulte. Alors ceci est obtenu par un système très simple qui nécessite cependant d'amener jusqu'à la galerie où siègent 70 téléphonistes les fils de 5000 abonnés et de 500 bureaux de téléphone au prix de millions de soudures. Mais enfin, ainsi, les 14 000 abonnés parisiens et les 15 000 provinciaux pourront-ils bientôt converser plus aisément entre eux, et même avec Londres, 140 fois par jour en moyenne, Bruxelles, 280 fois par jour, et d'autres pays d'Europe. Mais les États-Unis, qui sont le berceau du téléphone et qui comptent 250 000 abonnés, sont encore malheureusement inaccessibles.
Oh, ça viendra. Les véhicules mécaniques prennent de plus en plus de place. Vous commencez à en voir un peu dans les rues. Et il y a des courses, maintenant.
Plutôt que des courses, c'est des concours.
Ah, sont des concours.
Un concours de voitures mécaniques. Est-ce que nous devons cette initiative à notre confrère Le Petit Journal, qui a organisé ce concours de voitures mécaniques. Il a réuni plus de 100 concurrents pour un trajet supérieur à 100 km parcouru à 12 km/h en moyenne. Alors les véhicules, il y avait un moteur à gaz ou à air comprimé ou électrique, furent rapidement éliminés. Seuls terminèrent les véhicules réellement autonomes, propulsés par une machine à vapeur ou un moteur à huile minérale. La voiture à vapeur de M. De Dion et Bouton franchit allègrement la distance Paris-Rouen en 9h40. Suivi par les véhicules des frères Peugeot, Panhard et Levasseur, Lebrun, De Bourmont, Vacheron, Roger et Leblanc, celui-ci en 12h50. Le premier prix fut attribué à la voiture Panhard et Levasseur, actionnée par un moteur à gaz de pétrole de type Daimler, installé à l'avant du véhicule. Et on doit saluer ce constructeur, l'effort de coopération entre le carrossier et le fabricant de moteurs pour créer un véhicule qui soit autre chose qu'un simple moteur attelé à une voiture.
Vous parliez des problèmes des voitures électriques, mais par contre on est bien parti pour avoir des chemins de fer électriques. Alors on a un peu imaginé ce que pourrait donner les chemins de fer électriques. Les essais de locomotives électriques sont admirablement réussis. Inconvénient mineur, ne pas prendre les poignées de cuivre des trains électrisés. On connaîtrait aussitôt les joies de l'électrocution. Mais quels avantages ? Wagon-restaurant servi à l'électricité. Plus de garçons, les plats s'approchent électriquement de votre bouche. Le voyageur qui presse le bouton d'alarme entraîne instantanément l'arrêt du train, ce qui n'empêchera pas les autres voyageurs de continuer tranquillement leur voyage. En cas de mobilisation, les troupes qui descendront du train seront électrisées. Les gens atteints de maladies nerveuses pourront faire une cure sur le temps d'air et profiter de l'électricité développée par la compagnie. Chaque locomotive, en passant dans une station, laissera une dose d'électricité suffisante pour éclairer la localité jusqu'au passage du train suivant. Le seul inconvénient, en temps d'orage, sera le voisinage des poteaux télégraphiques. La foudre éclatera chaque minute entre les fils et les machines considérées comme pôles ou fous. Enfin, néanmoins, il y a quand même dans les publicités aussi beaucoup de progrès. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le Kodak. Tout le monde peut photographier avec le Kodak sans avoir aucune notion de la photographie, quand on est avec la pellicule transparente ou avec des glaces sèches. En voie franco du catalogue. Ah oui, le photonographe Edison. Edison, dernier modèle avril 1894, avec nouveau diaphragme perfectionné, vendu complet avec rouleau d'orchestre, de chant des meilleurs artistes de Paris, monologue et accessoires, le fonctionnement est irréprochable et garanti. Cette maison est la seule en France suivant les appareils authentiques munis de documents prouvant la provenance de la fabrique de M. Edison, qui présente une garantie sérieuse, possédant un vaste magasin, un atelier de réparation, grand choix de rouleaux et toutes les pièces d'or. Le public est prévenu contre les personnes vendant les vieilles machines qui sont chères à n'importe quel prix. Ensuite, on va prendre un peu l'air, que c'est Michel qui va nous entraîner hors de
part. En ouvrant l'illustration de ce matin, je lis un article intitulé « Tout le monde à bicyclette ». L'article commence par une célèbre phrase, et pourtant elle tourne. Mais qui donc ? Eh bien la roue de la bicyclette, plus sûre et plus rapide que la roue de la fortune. Bien sûr, tout le monde en est encore à discuter âprement sur les bienfaits du pneu plein, ou creux, gonflés d'air. Tout un lyrisme se déchaîne sur ce sujet, par exemple. Vu un huissier à bicyclette, ses dossiers accrochés à son guidon, et suivait un commentaire assez drôle, « Si les huissiers nous viennent saisir à 30 à l'heure, que deviendrons-nous ? » L'enthousiasme ne connaît plus de bornes, fût-elle kilométrique. Je lis aussi quelque part « Ce machin qui roule » est instable, etc., etc. Puis ailleurs encore, les chutes sont de véritables Waterloo, dont le coup est salé quand le vélo est en 8. Cependant, les lyriques et adeptes de ce nouveau mode de locomotion constatent que les gens, avant d'aller se mettre le collier, s'en vont au bois donner un coup de pédale, histoire de se réveiller les idées. En revanche, on constate qu'il y a toujours les adeptes forcenés du grand bi, suprêmement dangereux, si vous roulez sur le moindre caillou, si vous prenez le moindre virage. Mais le grand bi ne souffre pas la critique. Les amateurs tiennent à leurs acrobaties, comme les grenadiers de l'Empire à leurs bonnets à poils. Toutefois, on sait bien qu'ils mettent à la tirelire pour se payer un jour à la bicyclette. J'ai encore noté un argument en faveur de la bicyclette. La santé. Est-ce bon ou mauvais? Bon, bien évidemment, car désormais nous allons solliciter nos chères jointures que nous laissions rouiller jadis. Et nous ne courrons plus après notre train de banlieue juste après avoir avalé notre boc de bière glacée, meurtrière au possible. Mais l'argument qui, je crois, va reléguer aux oubliettes le grand bi et autres tricycles, c'est que la bicyclette est comparée dans les réclames à une femme. Elle est si accommodante, si leste, si pimpante, etc. Et j'ai même lu, dans une revue spécialisée, et je m'en tiendrai là, « Messieurs, la bicyclette, vous pouvez la mener à la main comme une danseuse. »
Je crois qu'après ce petit tour en bicyclette, vous allez nous faire un grand tour. Puisque vous avez rencontré monsieur...
Alphonse Baird.
Ah oui, monsieur Alphonse Baird, qui a fait un tour en Bosnie, en Herzégovine.
Oui, monsieur Alphonse Baird est rentré de son voyage en Bosnie et en Herzégovine. Il m'a livré quelques-unes des multiples impressions de son périple en Orient. L'itinéraire était le suivant. Paris, par l'Orient Express, via Trieste. Là, ils empruntèrent un bac funiculaire pour atteindre la côte orientale. Puis, Sarajevo, JHC, G0, les cascades de la Pliva, Jabonica, Mostar. Et retour. La Bosnie, qui est la Suisse des Balkans, selon Élisée Reclus, est un pays bucolique. Toutefois, des ruines et des forteresses montrent que ce ne fut pas toujours une contrée hospitalière aux touristes. Sarajevo est une ville turque, tout en ne l'étant plus tout à fait, car deux civilisations hostiles sont aux prises et essaient tant bien que mal de se réconcilier. Les Austro-Hongrois, installés depuis 9 ans, cohabitent avec les Bosniaques, grâce aux échoppes, boutiques, églises, mosquées, casernes et caravanserailles. Les têtes et moustaches blondes s'entremêlent aux figures sombres. Ces petits pays sont dirigés par M. de Calais. Il est hongrois et ministre des Finances. Il a créé sans détruire, modernisé sans toucher à l'intime organisation de ces petits peuples en laissant l'édifice des traditions. Par exemple, un maire du pays pour Sarajevo, ou une faculté de droit musulman d'où sortent chaque année de jeunes juges autochtones. Le voyage de M. Baird et des officiels continua, et ils furent conviés à une fête à l'Orientale, avec méchouis, fumées, odeurs variées, le tout dans une gaieté et une confusion extrême. Nos voyageurs découvrent ensuite JHC, construite sur un roc perché au bout du désert. Pêle-mêle, ils aperçurent un clocher vénitien. Des petites chaumières converties en mosquées par les croyants pauvres. Partout, une odeur forte de café. Puis, la caravane, après 24 heures de cheminement, arriva à G0, où une fête sur le lac les attendait. Tout le village, en costume bigarré, ainsi que de nombreux musiciens tziganes, acclamèrent les Français. Nourriture typique, jeux d'hiver, notamment le jeu du mouton, consiste à sauter ou à essayer de sauter sur une outre en peau gonflée d'air et enduite extérieurement de graisse, d'où les chutes pittoresques, cris perçants, acclamant les prouesses des participants. La caravane française poursuivant sa route, toujours aussi poussiéreuse que des bonnes bouteilles vieilles. Elle était partout accueillie par des sympathies vivaces, par des curiosités dépaysantes comme ces balayeurs de grandes routes. En Orient, que coûtent ces fonctionnaires au budget municipal? Nos amis arrivèrent ensuite en vue des monts de l'Herzégovine. Notre journaliste a été heureux d'avoir voyagé là, dans un tortillard, qui laisse aux touristes le temps d'apprécier les paysages à l'allure du trot d'un cheval. Pays béni, me dit-il, où l'on n'abuse pas encore trop de la vapeur. Ils arrivèrent un après-midi d'octobre à Mostar. C'est une ville nouvelle, harmonieuse, toujours grâce au bon goût de Monsieur de Calais. Les maisonnettes turques se mélangent avec les bâtisses européennes, toutes neuves. Minarets, hôtels confortables pour les touristes. La caravane fait quelques promenades de nuit en Herzégovine. Et Monsieur Baird a eu une nette impression que la sécurité des routes est très supérieure à celle de nos boulevards extérieurs vers 2 h du matin. Leur retour se fit progressivement et à mesure qu'ils s'approchaient de Trieste, les paysages étaient de moins en moins orientaux, mais plutôt ceux d'une Italie slave. Et M. Alphonse Baird conclut son récit et nous dit à tous, « Touristes, il faut venir en Bosnie et en Herzégovine, mais venez-y vite, car dans 10 ans, le charme spécial de cette promenade sera atténué par le progrès. Sarajevo n'aura plus 45 fiacres, mais aura des stations d'omnibus, des tramways électriques. » Il nous dit, « Touristes, pressez-vous !»
Merci beaucoup. Alors, on parlait tout à l'heure de cycle. Je vous conseille le cycle Peugeot, qui vous permet de faire Bordeaux-Paris, premier, en 25h11min7s. Les usines sont à Valentinier. Nous allons continuer dans la légèreté. Cette fois, ouvrir la page mode.
Cette année, nous pouvons relever une nouveauté. Le bracelet et le collier de velours assortis, fermés par une boucle et des bracelets de diamant. Ces mêmes bracelets servent quelquefois à maintenir le long gant qui doit sembler continuer le gros bouffant de la manche. Une dernière charmante nouveauté, une épingle à chaînette spéciale pour froncer les voilettes sur le devant du chapeau. Les belles dentelles sont très en faveur. Les jupes, comme vous voyez, se portent moins longues, effleurant à peine la terre, laissant bien voir le sous-pied ou la bottine. Notre première toilette est ornée d'un mélange de jais, de paillettes, de guipures. La robe, en taffetas glacé bleu et noir, de chaque côté de la taille, 3 longues et minces bandes de guipures vides viennent former des pointes inégales sur la jupe, terminées par des choux de moire blanc mat. Cette guipure est rebrodée de jais et de paillettes d'acier. La ceinture en moire souple et flottante derrière. Pèlerine courte en soie bleuet recouverte de guipures perlées et entourée d'un volant foncé en soie changeant. Chapeau à bord plat en paillasson avec un gros pouf de tulle noir de chaque côté. Nœud cerise et cache-peigne de marguerite noire à cœur jaune. L'éventail qui accompagne cette toilette est une nouvelle fantaisie. On va, paraît-il, essayer de supprimer le corset de la toilette féminine. Cette idée serait venue à la suite de la formation d'une nouvelle ligue anglaise, celle de l'anti-corset. Cette ligue se propose d'organiser une prochaine exposition de mannequins de figures de cire qui montreront toutes les déchéances physiques qui sont dues à l'usage du corset et ses conséquences sur la santé et la beauté du corps de la femme.
Moi, je vous conseille des corsets LP qui ne font pas toutes les misères que vous avez.
Alors, je vais vous apporter une petite précision. Les fabricants de corsage se rebellent contre la suppression du corset et voudraient renforcer les corsages de baleines et autres instruments de torture. Donc, à suivre.
Vous allez nous parler un peu du spectacle,
Marie. Oui, je vais vous parler de musique. Le 17 mars, Thaïs, comédie lyrique en 3 actes, livret de M. Louis Gallet, musique de Jules Massenet, inspiré par le joli roman « Ni païen, ni chrétien » de M. Anatole France, a été présenté avec un soin extrême au public par la direction de l'opéra. La mise en scène relève de la féerie. La gravure demeure et l'intérieur somptueux de la courtisane. Au premier plan, une figure de Vénus. Sur une stèle, un brûle-parfum. Le sol est couvert de tapis de Byzance, d'oreillers brodés et de peaux de lion libyque. Près du divan, de grands vases d'onyx, d'où s'élancent des pensées en fleurs. Le moine Nathanaël vient chercher Thaïs pour la convertir et la ramener, illuminée par la foi, au pied de Dieu. Thaïs est troublée. La grâce ne la touchera que quelque temps après.
Après la musique, le théâtre,
Au théâtre de la Renaissance, représentation du drame en quatre actes, Isèle, de messieurs Armand Sylvestre et Eugène Morand, avec une musique de scène de Gabriel Pierny. La pièce est jouée par mademoiselle Sarah Bernard, Marie Laurent et monsieur Lucien Guitry, qui fait son entrée dans ce théâtre.
Quelque chose de beaucoup plus léger, je crois, le chat noir.
Le chat noir est devenu en quelque sorte la comédie française des ombres chinoise. Fondée en 1881 par Sally, ce fut d'abord un débit de boc et de bonbons. Un soir, en arrivant dans la salle du premier, les habitués ne furent point peu surpris de voir un guignol dans un coin et d'entendre Sally annoncer, avec la verve endiablée dont il a coutume, la première représentation du chat noir. Peu d'instants après, la toile se levait sur La berline de l'émigré de Henri Sauve. Afin de corser le programme, Henri Rivière eut l'idée, quelques jours après, de tendre une serviette dans le cadre du guignol et de faire défiler derrière, tandis que Jouy chantait les sergots, des sergents de ville découpés dans du carton. Cette fantaisie fut des mieux accueillie. Le théâtre d'ombre du chat noir était créé. Des petites pièces, étincelantes d'esprit, furent ensuite données. Dans des décors de Donnet et Rivière, cette année, on y joue le délicieux héros et Léandre d'Haraucourt.
Celui de Cloutier, où vous avez vu les merveilles que vous avez vues au salon cette année. Au salon au pluriel, d'ailleurs.
Au salon au pluriel. Nos artistes ne se sont toujours pas réconciliés, et nous avons encore cette année deux salons. Celui du Champ de Mars et celui des Champs-Élysées. Ils réunissent plus de 3000 tableaux, sans compter les aquarelles, les pastels et les dessins. Dans ces expositions, nous trouvons un peu de tout, du bon, du moins bon, de la petite et de la grande peinture. De cette dernière, il ne s'en sortait plus beaucoup, à moins qu'on entende par là l'étoile qui réclame un grand cadre. C'est un peu ce, le jury des Champs-Élysées semble avoir adopté cette interprétation, car il réserve toutes ses tendresses aux peintures de taille importante. L'école française a relégué dans l'oubli les ancêtres immédiats comme Delaroche, Flandrin, Cabanel. Peut-être nos descendants penseront-ils de même de ceux que nous prônons aujourd'hui, mais pour le moment, tenons pour bon notre jugement. On ne contestera pas le mérite d'exécution de la grande toile exposée par M. de Taille, Un incendie à Paris. Ce tableau est inspiré par un banal fait divers. Remarquez l'incident dramatique du blessé, salué au passage par les autorités qui se sont transportées sur les lieux. Par ailleurs, les sujets gracieux abondent. Nos peintres célèbrent à l'envi la beauté des formes féminines, mais vous ne les verrez pas ce soir, car c'est la peinture de la maternité qui prime toutes les autres. Ce n'est plus la Vierge à l'enfant, mais la génétrice humaine qu'on nous montre. Monsieur Roll a traité ce sujet avec un bonheur complet. Ici, Louise Catel nourrice. L'esquisse est large et puissante, montrant une femme de la campagne tenant dans ses bras un robuste bébé qui, dans un geste moulu, s'est pendu à son sein. On voit aussi beaucoup de toiles où le peintre matérialise l'idéal. Au salon du Champ de Mars, comme au Champs-Élysées, on voit apparaître de légers fantômes aux longues draperies blanches et flottantes. Ce sont des anges en visite chez des pauvres gens ou des muses fréquentant des poètes. Voici Évocation de Moreau de Tours. La partie la plus faible de ces salons est le paysage, sans nul doute. Les chefs qui viennent à peine de disparaître, Corot, Rousseau, Millet, laissant derrière eux une longue suite de chefs-d'œuvre, ont à peu près tout dit sur notre terre de France du XIXe siècle. Cependant, nous mentionnerons quelques peintres qui méritent l'attention. Nous avons Rimbaud, Vatelin, Lévy, Boudot, Rigolo, Charlet Pompon, Bonnefoy, Isambard, Boucher, Porcher, Lecomte, Beauvais, Schmitt, Bayet et Jousset. La nature, sans doute, est immuable, mais non pas l'image que nous en faisons. Et l'on attend l'homme de génie qui verra la nature d'une façon plus moderne et fixera dans ses œuvres la version nouvelle.
Ah oui, alors une petite bande dessinée, parce qu'on arrive à la fin de l'année.
À ma femme, au sein qu'elle me fait toute l'année. À une compagnie de risque
Ah oui, alors une petite bande dessinée, parce qu'on arrive à la fin de l'année, et un des soucis à l'époque déjà, c'était le problème du budget des trains, bien entendu. À mon concierge, pour ne jamais monter les lettres, 50 francs. À ma cuisinière qui me vole, 60 francs. À mon valet de chambre, à lui mettre pour mes cigares, 100 francs. À ma femme pour les peines qu'elle me fait toute l'année, 500 francs. À une compagnie de rifleman, mène, vidangeur, balayeur, etc., 100 francs. Facteur de mauvaises nouvelles ou de prospectus qu'on n'ouvre pas, 100 francs. À Mme Poulardin, X, Z, Y, etc., pour un mauvais dîner fait chez chacune de ces dames, bonbons, 40 francs. À mes neveux pour les prix qu'ils distribuent à notre gratitude, 80 francs. Amour et mystère pour qu'elle nous dit 50 francs. Contrôleur de théâtre où j'ai une entrée où je ne vais jamais, cadeau d'hiver à un disciple d'intrigant 500 francs, et pour moi un crapaud, un sou, je terminerai par une dernière publicité, tu as passé une promis. Invocation, verse-moi tes trésors, larmes d'harmonie. Jamais nos faibles voix, nos suaves accords ne chanteront assez l'inventeur de génie qui nous débarrassa de la lettre. Et sur ces images, je terminerai notre année 94 et notre année 94. Et je vous remercie de votre attention.